Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Alors, le thème ce soir, j'ai repris ce mot anglo-saxon qui entre dans le vocabulaire de 2024. Jensanity, c'est la folie autour de Jensen Huang, le fondateur de Nvidia. On voit que Nvidia est devenu évidemment l'emblème de cette technologie dopée à l'IA qui bat des records chaque jour. C'est le cas encore aujourd'hui. On en parle avec vous, Jean-Pierre Petit, à mes côtés en plateau, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Grégoire.
Il y a la conversation permanente autour des politiques monétaires. C'est un driver important pour les marchés. Mais il y a aussi tout ce qui se passe autour de la tech et de l'IA. Nvidia, je le disais, bat des records chaque jour. Comment vous regardez ce secteur de la tech, cet engouement autour de l'IA après 12-18 mois bien tassés effectivement de folie? Est-ce que c'est déjà trop vertigineux pour quelqu'un qui essaye de réfléchir un peu froidement, cliniquement au sujet? Ou est-ce qu'on peut encore rester constructif en rationalisant encore un peu ce qui se passe, notamment en termes de dynamique boursière et de création de valeur? Je pense que Nvidia, de ce point de vue-là, restera un exemple rare, peut-être unique dans l'histoire.
Eh bien, je prends la deuxième option. Ouais. Voilà, les choses sont très claires. Nous, on surpondère la tech encore. On avait arrêté au début de février, jusqu'au début du mois de mai. Et on n'a pas eu tort parce que la tech, à ce moment-là, a même un petit peu sous-performé le SP500. Ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Puis là, c'est reparti, avec les résultats, en fait, fondamentalement. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, les 7 magnifiques, c'est à peu près 60% de l'indice. Hein. Voilà. Donc, mais pour nous, il y a quand même un momentum de révision bénéficiaire tout à fait favorable et basé sur du concret. Parce que quand on regarde les révisions bénéficiaires de la tech et du reste du marché, il n'y a pas photo.
Ouais.
Les attentes de BPA ne sont pas complètement folles. C'est du 18-19, mais beaucoup poussé par Nvidia.
Ouais.
Voilà. Et alors, maintenant, la tech, c'est tellement gros aux États-Unis, c'est plus de 30% de l'indice du SP500, qu'il faut faire des distinctions, en fait. Parce que, en fait, ce qui a bien marché, c'est les semi-conducteurs,
oui,
Nvidia. Enfin, et encore. D'ailleurs, pas tous les semi-conducteurs,
non,
parce que Intel est en baisse.
Ouais.
Voilà. Dans tout ce qui est médias, services Internet, c'est pas mal. Hein, voilà. Vous avez Meta, Alphabet, tout ça. Alors, par contre, hardware, pas terrible du tout, hein. Les vieux,
oui,
pas si vieux que ça, mais
on a vu Dell baisser, enfin voilà, etc.
Donc en fait, si on achète la tech d'une manière générale, on s'en tire. Mais ce qui est encore mieux, c'est de choisir les bons sous-secteurs, les bons segments, et puis carrément faire du bon stock picking. Voilà. Et pour moi, je pense que la tech va continuer de surperformer pour plusieurs raisons. Je l'ai dit, perspective bénéficiaire, momentum de révision bénéficiaire, et puis c'est poussé par des trucs quand même puissants.
Ouais.
Tous les dispositifs Biden, hein, chips plus IRA, etc. L'internet des objets, le métavers, enfin la numérisation de l'économie américaine et de l'économie mondiale, les perspectives de demande qui sont quand même très très bonnes, les marges qui augmentent. On est quasiment sur du pas loin de 35%.
En moyenne, pour le secteur de la tech, avec toutes les disparités, hardtech, soft, etc.
Ah oui,
c'est 30% en moyenne.
Ah oui, c'est plus de 30%, et ça continue de monter.
Oui.
Voilà. Alors que souvent, un certain nombre d'observateurs disaient, bon, ça commence à bien faire, etc. Et la valorisation est très élevée. Alors, dans la tech, elle l'a toujours été, mais là, on est à 28, si on prend le PE forward d'un an. Alors, les gens me disent, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, et c'est loin des sommets de 2000 encore, hein. On est loin, puis d'autres périodes de bulles correspondant à des innovations technologiques. D'ailleurs, on me demande souvent si c'est une bulle. Et nous, on a 10 critères pour qualifier une bulle. Parce que moi, j'ai parlé d'économie de bulle il y a 25 ans.
Il y en a combien sur 10 qui matchent ou pas, là?
Alors, il y en a
quelques-uns, quand même, j'imagine, sur 10, oui.
On n'est pas sur du plat.
Non.
On n'est pas sur du plat. Alors, il y a la valorisation absolue, la valorisation relative, la prime de risque, il y a le momentum de cours, il y a les IPO, enfin, il y a toute une série de facteurs, le momentum macro, le momentum de cours qui est très important, hein, dans les bulles,
bien sûr,
ça s'accélère en fin de cycle. Tout ça, on est à peu près, selon notre indicateur, le Bubble Watch, on est à peu près 64%.
D'accord.
Donc c'est-à-dire on est
c'est à quoi, 60... jaune un peu mûr,
voilà,
quoi.
Ouais, mais attention, parce que faut pas le louper, parce qu'à la fin,
voilà, la fin, ça, combien de temps on l'a raconté.
Faut jamais oublier que
entre 97 et 99, ou entre 98 et 2000,
il y a beaucoup de gens qui sont ruinés par les éclatements de bulles, mais faut jamais oublier qu'avant il y a énormément de gens qui se sont enrichis, et pas seulement les fondateurs, etc., des gens qui ont placé leur argent dans ces valeurs. Donc faut surtout pas la louper. Alors on me dit qu'il y a une excessive concentration de l'indice sur la tech. Oui, mais c'est pas si excessif que ça. Ce qui était terrible en 98-2000, c'est que quand on prenait le SP500 en équipondéré, on voyait qu'il y avait plus de valeurs qui baissaient que de valeurs qui montaient.
Ouais.
Et pourtant, l'indice explosait. Là, il y avait danger, en quelque sorte. Là, si tu prends le SP500 hors tech, Oui. Depuis le début de l'année, il a quand même progressé. Beaucoup moins, évidemment, mais il a quand même progressé. Donc, il n'y a pas une concentration si excessive que ça. Donc, je prends plutôt la deuxième option.
Oui, j'entends. Rester constructif.
Pour l'instant, faut surveiller quand même, parce que ça peut s'emballer.
Quand tu réfléchis au risque, évidemment, alors, notamment sur les semi-conducteurs, on est loin encore d'un risque de surcapacité aujourd'hui, tu dis, même au niveau mondial.
Oui. Y a un autre élément qui va favoriser la tech américaine, c'est la baisse des taux réels. D'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire que la tech ait si bien performé en période de hausse des taux nominaux et réels depuis le début de l'année, même si là...
Ça montre la puissance de la tendance, quand même.
Oui, c'est la puissance de la tendance. Cela, ça renverse des éléments clés. Et c'est pour ça que les stratégies growth ont quand même mieux marché que les stratégies value. Hein. Donc, je pense que on n'est pas encore en phase de sommet, on va dire. Ouais. Voilà.
Les frictions politiques, géopolitiques ont eu très peu d'impact à ce stade. Il y a des acteurs qui sont passés quand même par la casse-prison, entre guillemets. Enfin, Huawei, à un moment, a été quand même complètement annihilé du marché sous l'époque Trump, etc. Puis ça repart ensuite.
Oui, on a toujours parlé aussi du risque de régulation, du fait de la monopolisation d'un certain nombre d'activités, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire que ça les protège, ça. Parce que la bataille technologique entre la Chine et les États-Unis est si forte qu'on ne peut pas affaiblir le secteur américain. Voilà. Et je crois que les Chinois, il y a eu deux événements. C'était effectivement, l'initiative Chips de Biden et ChatGPT. Je pense qu'ils ont compris, mais ils ne vont pas lâcher le morceau, mais je pense qu'ils ont compris que pour la tech haut de gamme, ça risque d'être perdu. Mais ils vont conserver le bas de gamme et le moyen de gamme. Le niveau technologique de l'économie chinoise s'est considérablement amélioré, mais je pense que sur la partie haut de gamme, ça va être un peu plus compliqué pour eux.
Bon, sur le délire, alors la Gensanity et les GPU de Nvidia, c'était un calcul, peut-être un petit calcul de coin de table, mais quand même fait par les partenaires de Sequoia Capital qui se connaissent en Venture Capital. Il y a eu 50 milliards de dollars d'achats de GPU Nvidia l'an dernier. Quand ils font les maths de l'IA, comme ils disent chez Sequoia, ils vont regarder ce qui a vraiment été créé comme revenu supplémentaire par les startups de l'IA qui utilisent ces GPU dans les data centers, etc. C'est à peine quelques milliards pour l'instant. Alors, on est au début, on est loin du break-even de l'IA aujourd'hui pour ceux qui dépensent des fortunes pour s'équiper en GPU.
Oui, mais c'est un pari. Il y en a eu des quantités de paris dans l'histoire. Je pense que les paris les plus dangereux, c'est sur les boîtes, en fait. Mais sur la dynamique d'ensemble, voilà. Et après, ça se diffuse, ça se diffuse chez les utilisateurs. Donc, parce que c'est vecteur de gain de productivité, c'est moins qu'on puisse dire. Ça. Enfin, je veux dire, il est même probable qu'au niveau de la macroéconomie américaine,
ça change.
Il y a déjà, on a eu plusieurs chiffres, des bons, et là, le premier trimestre est moins bon. Mais il est plausible de penser, parce qu'on n'arrive pas à le démontrer quantitativement, il est plausible de montrer que la hausse des gains de productivité est due, au moins en partie,
aux investissements qui sont réalisés depuis des années dans ce domaine-là.
Et à une pénétration, un début de pénétration aussi des innovations, de la numérisation sur le reste de l'économie. Ouais. Voilà.
Bon, dans l'actualité du prochain semestre, là, effectivement, c'est l'idée aussi d'évoquer un peu tous les enjeux de marché au global, au-delà de la tech. Jean-Pierre, tu es toujours convaincu que Trump a toutes les cartes en main, ou en tout cas que les planètes sont alignées pour une nouvelle élection de Donald Trump le 5 novembre.
On est à 5 mois de l'élection, il peut se passer des choses.
J'entends.
Mais si je devais prendre un pari aujourd'hui, oui, je dirais que c'est Trump. Pourquoi ? Parce que d'abord...
Malgré les Biden... malgré quand même les résultats économiques affichés, et que pourra afficher Joe Biden à l'issue de son mandat.
Absolument, malgré cela. Alors, Trump avait aussi un bon bilan. D'ailleurs, on a fait le bilan hors Covid, parce que Covid, ni Biden ni Trump n'en étaient responsables. Donc, on a neutralisé Covid. On a fait le bilan de Trump et Biden, j'ai envie de dire, c'est à peu près match nul. En termes de croissance, création d'emplois, investissement tech, justement, productivité, enfin bon, bref, taux de chômage, une batterie d'indicateurs, c'est à peu près match nul. Par contre, les deux surperforment nettement les deux mandats d'Obama, par exemple. Voilà. Mais c'est pas ça qu'il va faire, là. C'est plusieurs choses. D'abord, je crois que Trump répond à un certain nombre de frustrations d'une grande partie de l'électorat américain. L'indifférence des partis politiques, des deux grands partis politiques à l'égard de la désindustrialisation, l'immigration non contrôlée, avec je parle pas au niveau macro, l'impact macro, je parle plutôt de l'impact sur les narcotrafics ou des machins comme ça va le marché. Les initiatives, les aventures extérieures qui ont toutes échoué, faut bien le reconnaître, Irak, Irak, Afghanistan, Syrie. Donc, qui sait qui est le plus isolationniste là-dedans? Bah, c'est oui, plutôt
ça
Trump.
Ça reste les mêmes drivers que 2016, quoi.
Voilà, exactement. Donc, ça, et puis Trump correspond quand même à la transformation du monde. C'est un type qui joue sur le transactionnel, sur la puissance, le rapport de force.
Le transactionnel, et... oui.
Ah ben,
oui, oui,
lui,
oui, bien sûr. Oui,
ah,
oui.
Les institutions multilatérales, ils s'en foutent complètement. C'est l'économie de
c'est du gré à gré, oui, oui.
On dit économie de guerre, c'est un peu exagéré, mais enfin, économie de conflictualité. Ouais. Et lui, lui, il correspond parfaitement à ce monde-là. Alors, pourquoi Biden va perdre, à mon avis, en l'état actuel des choses? Bah, il est jugé trop vieux, tout simplement, par les électeurs américains, y compris les électeurs démocrates. Alors, il y a 3 ans et demi d'écart entre les deux, donc c'est pas beaucoup, mais n'empêche, il y en a un qui...
L'image renvoyée n'est pas la même.
Qui tient debout pendant 2 heures à raconter ce qu'il a envie de raconter, mais l'autre qui serre la main dans le vide à la fin de son discours, ça, c'est pas terrible quand même pour le job le plus puissant du monde. Enfin, pour le président américain, c'est l'homme le plus puissant du monde quand même. Donc, faut quand même faire un petit peu attention à ça. On voit dans les sondages qu'au niveau fédéral, en fait, pour se baquer dans les 6 états clés, il faut que les démocrates aient 6 à 7 points d'avance au niveau fédéral. Et là, il est en retard de...
Oui, oui.
J'ai pas regardé les dernièrement, mais il a -1, -2. Donc, ça paraît quand même très, très, très difficile. Puis, un autre élément qui est un peu négligé en Europe, c'est que Kennedy, le fils de Robert Kennedy, fait 11-12 dans les sondages, quand même, fédéraux.
Oui, oui, bien sûr. Et il mord. Ouais, il mord un peu.
Alors, lui, on sait pas quelles sont ses convictions. Il va un peu à droite,
non,
à gauche.
Mais il mord un peu, quoi.
Oui, il mord un peu plus sur l'électorat de Biden que sur l'électorat de Trump.
Ouais.
Donc, ça fait un handicap supplémentaire. Faut pas oublier que Ralph Nader, en 2000, l'écologiste de gauche américaine, avait piqué un petit peu sur Al Gore, et au total, il s'était... Et dans l'autre sens, à droite, Ross Perot, en 92, avait pris sur senior. Donc, c'est
jamais
important.
Jamais sous-estimé l'impact du troisième homme de ces
Absolument.
Élections américaines dans ce format quand même toujours très, très bipartite. Qu'est-ce que ça change si c'est Trump? Et notamment, tiens, puisqu'on parle aujourd'hui 6 juin 44, 6 juin 2024, c'était le jour de la Banque Centrale Européenne, notamment, mais 5 novembre, si c'est Trump, avec un programme, qui sera pas surprenant, hein, qui est déjà écrit d'une certaine manière, ça change quoi pour Jérôme Powell? Qui a déjà du mal à délivrer une première baisse de taux là aujourd'hui.
Ouais, faut pas exagérer là-dessus. Bon, il lui mettra la pression, mais à la limite, moi ça me choque pas. Hein. Les banques centrales indépendantes sont pas des tours d'ivoire. Hein. Il doit pouvoir y avoir un dialogue démocratique avec une institution qui ne se situe pas en dehors du champ de la démocratie. Et d'ailleurs, j'aurais aimé, moi...
Sur la pression que Trump pourrait lui mettre via Twitter ou autre, ou j'en sais, ou en direct, au téléphone,
ouais,
je sais pas.
Mais
c'est plus... au regard du policy mix que pourrait être la politique budgétaire de Trump à partir du 5 novembre.
Ah oui,
c'est plus dans le contexte du policy mix généré par une nouvelle élection de Donald Trump.
Oui.
Et puis la pression, évidemment, que Trump pourrait lui mettre...
Ah ça, il faut s'attendre,
effectivement. Parce que Trump va lui mettre la pression pour baisser les taux.
Ah ben bien sûr,
oui,
bien sûr. Ça, mais encore une fois, moi, sur le principe, ça ne me choque pas. Il avait raison en 2018 lorsqu'il l'a critiqué. Parce que la preuve, c'est qu'il y a eu des baisses de taux en 2019 et qui n'ont pas généré d'inflation.
Un revirement en 15 jours.
Ah, voilà, un revirement en 15 jours. Moi, j'aurais adoré que des politiques français ou européens cognent sur Trichet lorsqu'ils gouvernaient la BCE. Quand on voit les déclarations...
Ils l'ont fait, mais après, quoi.
Ils l'ont fait, mais après, c'est trop tard.
Ouais.
Voilà. Cogne, quand je dis cogne, critique. Et propose d'autres solutions. Parce que c'était assez catastrophique, quand même, cette politique monétaire au début des années 2010, en pleine crise de la dette souveraine. Et j'aimerais aussi avoir une dirigeante de banque centrale ayant un petit peu plus de vision, de charisme, d'audace. Hein. Je parle de Christine Lagarde. Christine Lagarde, c'est quand même, je m'excuse, hein, mais vraiment très bonne en termes de communication sur la forme. Mais sur le fond, il n'y a pas grand-chose quand même.
Ouais, enfin, les investisseurs, ils peuvent regarder au-delà de ça.
Oui,
Jean-Pierre,
bien sûr.
Pour le débat public, mainstream, d'accord, c'est peut-être important l'image que aujourd'hui la présidente de la Banque Centrale renvoie, mais pour des investisseurs à commencer obligataire...
Non, mais j'aimerais qu'il y ait... Enfin, là, tu vois, plutôt que de reprendre des discours un petit peu allemands, là, j'aurais aimé de sa part plus d'audace quand même. Tout ça parce que l'inflation n'est toujours pas à 2%. Enfin, c'est une approche comptable complètement anachronique. On a des enjeux majeurs pour l'Europe des prochaines décennies. On a la transition numérique, la transition énergétique.
Ah ben oui.
Il va falloir reconstruire l'Ukraine. Il va falloir continuer à se battre en Ukraine pendant je ne sais pas combien de temps. On a les dépenses du vieillissement. Enfin, je veux dire, il faut quand même un minimum de vision politique quand même.
Oui, mais elle fait avec 26 personnes autour de la table.
Oui, mais Draghi, c'est... Draghi a réussi. Ah ben oui, mais pourquoi il est...
Il imposait l'agenda.
Ben voilà, mais Pourquoi il est si populaire aujourd'hui, Draghi? Ben parce qu'il a réussi. C'est un dirigeant politique, c'est-à-dire le meilleur dirigeant politique européen, à mon avis, depuis 30 ans.
C'est pour ça qu'il ne sera pas nommé président de la Commission européenne. Il ferait trop d'ombre aux autres.
Oui, mais c'est ça. Ça fait partie.
C'est comme ça qu'on me l'a dit.
Ça fait partie de la tristesse qu'on peut avoir à propos de la gouvernance européenne.
Bon, quand même, on a baissé les taux. Il ne reste même pas une minute. On a baissé les taux une fois. Bon, évidemment, pour l'instant, alors avec toute la prudence et la retenue exprimée par Christine Lagarde, mais rendez-vous en septembre avec de nouvelles projections. Là, ils ont relevé un peu les prévisions d'inflation. Oui. Mais c'est possible qu'ils les rebaissent peut-être dès le mois de septembre.
Absolument.
Le rythme peut s'accélérer ensuite, en 25.
Oui, je pense. Enfin, s'accélérer.
Oui.
On peut espérer 75 points de base cette année, parce que faut dire que la conjoncture quand même est un peu plus favorable.
Bah, oui. Là,
je parle pas de l'inflation, parce que l'inflation elle est à 2,5+, on va dire. Voilà, 2,5+.
C'est quoi, c'est 0,8 de croissance cette année en zone euro qui ferait repartir l'inflation? 0,9, ça ferait repartir l'inflation? Non. Donc alors?
Non, mais le cycle dans les fonctions de réaction des banques centrales, en particulier d'une banque centrale traditionnelle comme la BCE, ça joue un petit peu, à la marge. Ça donne un peu moins de grain à moudre aux pays d'Europe du Nord, disons, on va dire ça comme ça, même s'ils vont très mal, quand on regarde aujourd'hui la situation conjoncturelle. Non, je pense que les 75 points de base seront là, parce que les anticipations d'inflation baissent, parce que quand même les gains de productivité vont un peu remonter, il faut dire qu'ils étaient tellement bas.
Au moins cycliquement, quoi. Ouais, oui.
Cycliquement, donc ça va limiter les coûts salariaux unitaires, l'emploi décélère un petit peu, voilà, les créations, les augmentations de salaire vont décélérer, donc tout ça va permettre, puis de toute façon, après les taux courts, c'est important, mais ce qui compte le plus, c'est quand même les taux longs. Et les taux longs sont aussi déterminés par les taux longs américains. Et donc la bonne nouvelle des derniers jours, c'est un peu le soft landing qu'on a au T2 aux États-Unis qui permet quand même d'envisager un mouvement graduel de baisse des taux longs.
Avec une confirmation effectivement quand même que le marché de l'emploi, le marché du travail américain se détend, se rééquilibre. On l'a vu avec les dernières données cette semaine et on verra si on a la confirmation demain avec le rapport mensuel sur l'emploi américain. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Petit qui venait nous voir, le président des Cahiers Verts de l'économie dans Smart Bourse sur Bismart.